Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien, et toi, Hugo?
Ça va bien aussi, merci. Re-bienvenue à Rembobinage, toujours évidemment votre rendez-vous cinéma-télévision. Et Kevin, écoute, il fait gris, il fait, bon là j'allais dire qu'il fait frais, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faisait frais quelques jours. On peut quasiment penser qu'on est à la fin du mois d'octobre, peut-être dans le coin de l'Halloween. Ceci explique peut-être le choix de notre film de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a écouté, Kevin?
On a écouté Late Night with the Devil, qui est un film réalisé par les frères Cameron et Colin Cairns.
Oui, effectivement, j'ai essayé de chercher un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont l'air d'avoir eu une carrière un petit peu en dents de scie. Donc, Colin et Cameron Cairns, en tout cas, Cairns, donc Cairns. Donc voilà, qui ont fait de la télé, ils ont fait du cinéma. Je regarde leur fiche IMDb en ce moment, c'est ça. Ça va un petit peu dans tous les sens. Est-ce que tu les connaissais déjà?
Je pense pas que je les connaissais. Je pense que c'est leur premier projet vraiment marquant qu'on a entendu parler. Moi, le film avait été présenté l'année passée à Fantasia, fait que j'étais au courant que ça existait. J'avais malheureusement pas eu la chance d'aller le voir au festival, mais récemment, il est sorti en salle, il a joué plusieurs fois au cinéma moderne, puis là, il arrive bientôt sur la plateforme Shudder, fait que là, il y a quand même beaucoup de buzz autour de ce film-là, fait que j'avais hâte de le voir.
Ben, j'avais hâte de le voir aussi. On en avait parlé un petit peu, toi et moi, auparavant. Ça avait attiré un peu mon regard. J'avais oublié qu'il y avait été à Fantasia, mais bon, je l'avais pas vu non plus à Fantasia. On en avait parlé évidemment la semaine dernière quand on a fait notre épisode sur Festin Boréal, qui était pas du tout le même genre de film. Mais donc c'est ça. Shudder, bon, pour le préciser, ceux qui connaissent pas ça, c'est une plateforme effectivement qui se spécialise en films. De peur, film d'horreur, film de suspense, donc toutes des choses qui généralement ne doivent pas être écoutées, les lumières baissées, ou au contraire doivent absolument être écoutées, les lumières baissées. Dis-moi, est-ce que tu as aimé Late Night with the Devil?
Oui, j'ai adoré ça. C'est vraiment un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis assez longtemps.
J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que c'était très intéressant comme traitement. J'ai trouvé cependant que la fin était un petit manquait un peu de souffle. On aura évidemment l'occasion. On est là pour en parler, bien sûr. Donc,
Oui.
idéalement sans trop de divulgâcheurs et sans bien sûr que le ciel s'ouvre sous mes pieds pour m'engouffrer vers l'enfer. Est-ce que tu aimerais nous résumer un peu l'intrigue de Late Night with the Devil?
Oui, donc le film, ça se passe dans les années 70, plus précisément le soir de l'Halloween en 1977. Et le concept du film, c'est que c'est comme un peu si on voyait une cassette de l'enregistrement en direct d'un talk show de fin de soirée qui, vu que c'était le soir de l'Halloween, l'animateur Jack Delroy avait comme décidé de faire une thématique un peu paranormale. Donc, durant l'heure de l'émission, il reçoit un médium, il reçoit un ancien magicien qui est maintenant devenu un sceptique qui essaye de prouver que le paranormal n'existe pas. Et finalement, il reçoit Dr. June, qui est une parapsychologue et qui vient de publier un livre, je pense que ça s'appelle Conversations with the Devil. Puis le sujet de son livre, c'est une adolescente, Lily, qui était comme prisonnière d'une genre de secte satanique et que maintenant elle a été libérée de cette secte-là, mais elle continue d'être possédée par un démon. Et donc, c'est ça, la parapsychologue a écrit un livre là-dessus où que elle a fait des entrevues et des tests avec la jeune fille. Et finalement, dans le cadre du talk show, ça commence comme une entrevue, mais éventuellement, il essaie de faire une séance pour que le démon qui possède l'adolescente se manifeste pendant le tournage. Et bon, c'est ça, sans trop en révéler, mais on n'a pas le choix d'en révéler un peu. Puis tu sais, on a dit que c'était un film d'horreur, donc ça suppose que ça vire mal. Et c'est un des trucs qui est vraiment réussi dans le film, c'est que ça commence pas mal réaliste. Tu sais, c'est vraiment comme un pastiche de talk show des années 70. On a vraiment l'impression d'écouter une émission de télé. On voit aussi pendant les pauses commerciales, on voit des images comme documentaires, comme si c'était en coulisses, puis on sent vraiment la fébrilité du tournage en direct, tout ça. Mais à mesure qu'il y a des phénomènes paranormaux qui ont lieu, au début, on peut être sceptique un peu, mais bon, éventuellement, il semble vraiment se passer de quelque chose de terrifiant.
Bon, évidemment, c'est un film, comme tu dis, un film d'horreur. On peut se douter qu'effectivement, il va se passer des choses horribles, même si, bon, on peut se l'avouer, il y a ça, toutes ces sortes de choses, évidemment, c'est de la fiction, bien sûr. Mais ça m'a rappelé, tu parlais de Fantasia, quand on écoutait le film, le documentaire sur la panique satanique des années 80-90, qui était super intéressant et qui était basé sur des faits réels. Ce documentaire, faits réels étant pas, encore une fois, la possession satanique, mais la peur de l'existence de ce phénomène-là, donc les sacrifices, là, avec le heavy metal, puis là, les jeunes dans les parcs avec les, qui tracent des pentagrammes sur les arbres, les sacrifices humains et tout ça. Et justement, c'est ça, Conversation with the Devil, le titre du livre de la parapsychologue. Donc, c'est ça, ça fait référence à ça. Et ça m'a intrigué parce que, bon, je me souvenais pas si ce phénomène-là était déjà aussi présent que ça dans les années 70 ou à la fin des années 70. Peut-être qu'il commençait déjà à être présent. Mais bon, encore une fois, c'est un film peut-être aussi qui ont mélangé certaines époques et ça pose aucun problème. Dans le contexte du film, effectivement, c'est une émission, comme tu disais, spéciale Halloween. Et là, au lieu d'eux autres d'écouter un film d'Halloween passé, il y a un film d'Halloween plus contemporain, eux autres fois invitent des gens en lien avec cette histoire-là, cette période-là de l'année. Donc, justement, la question des démons, la question de la peur, la question des phénomènes paranormaux, tu l'as expliqué. J'ai beaucoup aimé, d'abord, l'espèce de présentation qu'on a de l'animateur. Donc, là, on peut le nommer, l'acteur, là, je vais peut-être me la sacrer son nom de famille, David Malchian.
Dastmalchian.
Ouais, bon, voilà. Mais je pense que ça sonne d'origine, je sais pas si c'est est-européen, mais bref, ou du Caucase, mais bref, voilà, je suis massacré son nom de famille. On l'a découvert, puis ça, justement, évidemment, tu vois son visage. Une fois que tu vois cette personne-là, tu vas la reconnaître là dans tous les films ou les séries télé auxquelles elle va jouer. Mais quand on a parlé de Batman Begins, en fait, de Dark Knight, quand on a fait l'épisode de Dark Knight pour le spécial sur Patreon, donc pour la voûte, c'est son premier rôle. Son premier rôle dans un long métrage, c'était l'un des sbires du Joker, qui il est là quelques minutes seulement. Mais donc, c'est ça, c'est un visage qui est très, très difficile à oublier. Et donc là, voilà, ça fait depuis ce temps-là, il roule sa bosse.
Il a joué beaucoup dans les films de Denis Villeneuve. Il a souvent des petits rôles. Il est dans le premier Dune. Je pense qu'il est dans Blade Runner 2049. Oui, il est dans Prisoners. Fait que clairement, Denis Villeneuve aime beaucoup cet acteur-là.
Oui, puis c'est ça, c'est pas nécessairement un rôle de premier plan, mais c'est on va le voir comme rôle secondaire. Il était en Oppenheimer aussi. Il est dans The Last Voyage of the Demeter, qui était un de nos films d'Halloween de l'année passée. Bon, malheureusement, c'était un film qui était assez décevant, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Et là, il y a son long métrage à lui, finalement, son premier rôle. En tout cas, dans le contexte, c'est ça, de film de peur. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup aimé l'espèce de présentation. C'est comme si, effectivement, c'était un documentaire, tu l'as mentionné, sur sa vie, sur sa carrière, avec des images, un peu des images d'archives, entre guillemets. Et là, on suit sa carrière, puis on apprend que c'est ça, il a toujours voulu concurrencer Johnny Carson, qui était le roi du late night pendant des décennies et qui n'a jamais réussi à être aussi bon ou meilleur que Carson, en tout cas en termes de code d'écoute. On apprend aussi certaines choses, comme quoi il fait partie d'une espèce de club select en Californie pour gens riches et puissants, avec certaines cérémonies occultes, on ne sait pas trop. Et bon, évidemment, je vous laisse le plaisir de découvrir ça, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé là-dedans, c'est que par deux fois, on nous parle de mouvements occultes et on nous présente des images de documentaires, entre guillemets. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant à chaque fois, c'est que c'est toujours des films français. Oui. Et ce petit clin, je ne sais pas pourquoi c'est ça comme ça, mais je pense que dans ce film-là, ce qui est vraiment intéressant, entre autres, c'est cet aspect-là de l'attention aux détails. On nous présente, c'est des petites choses comme ça. C'est pas juste, mettons, le film, on parlerait de ce club-là, c'est pas juste un titre générique. C'est, non, le titre en français apparaît à l'écran. Et c'est donc, des petites choses comme ça, des petites particularités qui font en sorte que c'est vraiment un bon film. Toi, t'as pensé quoi cet aspect-là, justement, documentaire, docu-vérité, un peu?
Ben, c'est vraiment bien fait. Je sais pas avec quoi, si on tournait sur pellicule ou quoi, mais visuellement, on a vraiment l'impression de regarder autant le talk show que, comme tu disais, les petits segments documentaires. Ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui a été tourné dans les années 70. Tu sais, il y a vraiment un côté, tu sais, ça fait pas HD 2024 du tout. Mm-hmm. Et dans la façon, les mouvements de caméra, des fois, il y a un zoom ou il y a quelque chose, on sent vraiment l'ancien style de tournage. Et aussi, un autre truc, tu sais, on parlait de l'acteur, oui. David Dastmalchian. C'est vraiment un acteur qu'on a vu souvent, mais tu sais, souvent dans des petits rôles, comme tu disais. Puis là, moi, je pense que c'est à peu près la première fois que je vois un film où qu'il y a le rôle central ou qui est mm-hmm. vraiment dans le film du début à la fin. Puis il est super bon. Puis aussi, un autre truc, c'est que souvent, dans les rôles de soutien qu'il faisait, il jouait des personnages un peu creepy. Puis, tu sais, il y a un peu de ça, évidemment, dans un film d'horreur. Mais, du moins, dans la première partie du film, c'est un animateur de talk show charismatique, oui. drôle, qui a vraiment de la présence, puis qui a vraiment une aisance à l'écran avec son public. Autant, il parle au public à la maison, mais il parle au public... dans le studio aussi, puis tout ça, puis il y a vraiment une prestance, puis je trouvais vraiment que c'était pas quelque chose que j'avais vu de cet acteur-là, puis ça fonctionnait au bout, puis il y a vraiment un côté, on pourrait dire, pas nécessairement artificiel, mais quand même un peu, il y a tout le temps conscience qu'il est devant une caméra, puis qui a besoin vraiment d'aller chercher le spectateur, puis c'est vraiment des petits détails, mais je trouve vraiment que ça fonctionne dans la façon... sa gestuelle, puis ses mimiques, tout ça, il y a vraiment une bonne présence d'animateur de talk show. Là.
Oui, ben c'est dur à décrire en version audio comme on le fait en ce moment. Il faut clairement le voir pour le comprendre, mais tu as tout à fait raison, il y a ce petit côté-là, cet affect-là de mm. « je suis en train de donner un spectacle, je suis un animateur, je suis un artiste », plutôt que de dire simplement « je suis quelqu'un là qui va faire une, tu sais, lire un texte ou présenter des invités. Il y a vraiment ce côté-là, showman. Et, quand tu mentionnais un peu, showman, mais des années 70, encore une fois, tu sais, c'est le aujourd'hui, t'aurais pas quelqu'un, t'inviterais pas dans un talk show quelqu'un qui dit, je peux parler avec les morts. Tu sais, il y a pas ce genre de choses-là. En tout cas, je pense pas ici, certainement. je vois pas ça à France, tu sais, mais je vois pas France Baudouin en direct de l'univers. Alors qu'on a invité quelqu'un qui est capable de parler avec les morts, au voulant communication.
Il y a Chantal Lacroix qui l'avait fait avec son émission de Paranormal.
Eh, misère. Ouais, ça, c'est peut-être pas le meilleur moment de la télévision québécoise. On peut se le dire.
La table qui bouge.
Voilà, c'est ça. La vraie séance du 19e siècle. On n'est pas dans la série Bodies sur Netflix, on est dans d'autres choses. Mais c'est ça, il y a ce côté-là un peu kitsch. Tu sais, on associe ça vraiment, je pense, justement, années 70, un peu kitsch, un peu... tu sais, on a des moyens, mais en même temps, tout est un peu brun, tout est un peu... tu sais, ça... Je sais pas comment décrire ça, tu vois que c'est un décor. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que tu vois que c'est pas vrai dans ce sens-là, et tu le vois un peu doublement parce que non seulement c'est un talk show, mais c'est un talk show dans un faux documentaire. Alors, il y a comme cette espèce de double effet de on vous cache, on vous présente pas toute la vérité exactement, puis bon, il y a certains effets aussi visuels de « Ah, pendant une fraction de seconde, la pellicule a un problème. » Pendant, tu sais, et bon, c'est annonciateur d'autres choses, là, mais il y a tout ce genre de choses-là. Parlant des acteurs, qu'est-ce que tu as pensé de la... J'ai pas son nom sous la main, mais la jeune fille, Lily, le sait, qui est supposément possédée par un démon.
Ouais. Ouais, j'ai pas noté le nom de l'actrice non plus, mais elle est vraiment bonne, puis je l'ai vraiment trouvée troublante et terrifiante. Comme un détail qu'elle fait toujours, c'est que pendant le tournage de l'émission, tu sais, normalement, quand tu te fais interviewer, tu regardes l'animateur, tu ignores un peu les caméras, mais elle, elle se retourne constamment, puis elle fixe la caméra. Puis autant, on imagine, si on était un spectateur qui regarde l'émission de télé, ça crée un effet troublant, mais aussi, en tant que spectateur qui regarde le film Late Night with the Devil, c'est comme si elle perçait le quatrième mur, puis elle nous fixe vraiment. Fait que ça ajoute au côté un peu déstabilisant, qu'on est comme, OK, est-ce qu'elle regarde à travers la caméra? Est-ce qu'elle sait qu'elle est dans un film, puis elle est en train de... comme de nous confronter puis de dire, hey, il va se passer quelque chose. Que c'est un petit détail, mais vraiment, à chaque fois qu'elle le faisait, j'étais comme, oh, OK, j'étais pas bien, là.
Oui, mais c'est ça, il y a ce malaise-là. Puis bon, encore une fois, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est le principe du film. Je veux dire, l'affiche du film, c'est un animateur, c'est un homme habillé en costume des années 70. Et la tête est en feu. T'sais, on peut bien se douter un peu qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais c'est ça, on ne sait pas quand ça va arriver. Puis, ça dure notre fameux 90 minutes réglementaire. J'ai regardé le temps avancer, puis je dis, OK, on va aller vers une progression. T'sais, les phénomènes vont se multiplier, il va se passer des choses. Puis, généralement, dans les 20... Le dernier tiers, ben c'est là que ça va péter, puis c'est là que bon, le démon va apparaître ou quelque chose, il va se passer quelque chose. Mais effectivement, il n'y a pas d'indicateur que c'est vraiment à la 60e minute que ça commence. C'est pas, on ne nous mène pas vers ça. Donc, quand il présente Lily, quand il présente l'invité, tu sais un peu que c'est avec elle que ça, les choses vont prendre de bord un peu, mais encore une fois, il n'y a pas. Tu sais, c'est pas écrit dans sa face de « dans 5 minutes, je vous fais peur ». Donc, elle fait l'entrevue, puis là, ça fixe la caméra, puis moi non plus, j'étais pas super à l'aise, puis elle parle à l'animateur, puis là, à un moment donné, elle a dit quelque chose, puis elle dit « est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je suis belle, Jack? » Et, à un moment, tu tutoies pas nécessairement l'animateur, ou c'est M. Delroy, ou tu sais, moi, je me verrais pas dire, tu sais, bon, on se rend en entrevue, on se connaîtrait pas, je dis, Kevin, est-ce que tu me trouves beau, quelque chose de même. Ouais. Je dis, OK, il y a de quoi, puis la façon dont elle joue, tu sais, c'est pas toujours évident d'avoir le personnage d'enfant possédé, c'est quasiment rendu un peu cliché, là, on avait parlé de L'Exorciste il y a déjà plusieurs années, puis c'est un film qui a quelques décennies maintenant, c'est un cliché un peu dans le domaine du film d'horreur, mais je trouvais que c'était rafraîchissant d'un sens. Je trouvais qu'elle jouait tellement bien que c'est puis la différence entre elle n'est pas possédée puis elle est possédée, il y a des changements visuels, mm-hmm. ton maquillage change, encore une fois, sans trop en révéler, là. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien exécuté.
Oui, c'est ça. Évidemment, on pense à L'Exorciste autant dans la façon que quand elle est possédée par le démon, son visage est comme transformé, la voix, tout ça, un peu le type de truc qui se passe. Mais je sais pas si c'est le fait que c'est un faux documentaire, comme du found footage, tout ça, ça ajoute un angle que c'est comme si ça se passait pour vrai. Fait que moi, j'ai trouvé ça comme presque plus épeurant que dans un film où on sait qu'on se fait raconter une histoire, que c'est du cinéma. Il y avait quelque chose, une proximité qui était vraiment troublante, puis... Ouais, moi, ça a marché au bout pour moi. Là. J'ai pas souvent peur au cinéma, mais pendant ce film-là, j'ai eu peur.
Ben, écoute, moi, tu sais que je suis pas un grand fan de films d'horreur parce que j'ai peur. Je l'ai déjà dit, c'est arrivé certains films, puis pas nécessairement les meilleurs films. Je veux dire, on a parlé de Barbarian, qui est un très bon film. J'ai pas eu peur, j'ai bien dormi, tout ça. Mais dans certaines circonstances, tu sais, It Follows, The Ring... Smile, alors que Smile, c'était pas bon. C'était un pastiche de, justement de It Follows, puis c'était moins bon, mais ça m'a marqué. Puis là, je me disais, c'est pas si épeurant que ça, Late Night with the Devil. C'est pas extrêmement violent, c'est pas extrêmement gore. Il y a du gore, mais c'est pas de la torture porn comme peut l'être, mettons, les films de la série Saw ou quelque chose. Mais il y a ce petit côté-là, l'ambiance malsaine, qui venait me chercher, même si il y a une révélation, entre guillemets, à un moment donné, que j'avais vu venir. Je sais pas si toi, t'avais vu venir la twist, là?
Oui, si c'est ce que je pense, ouais, il y a certains trucs qu'on est comme, ah ouais, sûrement que ça s'en va là.
Oui, mais encore une fois, c'était bien amené, puis c'était naturel en un sens d'amener ça, de nous amener vers ça. Donc, vraiment, mais c'est ça, peut-être son. Je sais pas si t'as envie qu'on parle de la fin. Évidemment, c'est un peu difficile de parler de la fin sans donner trop de détails, mais j'ai trouvé, c'est ça, que ça manquait de souffle, qu'on est arrivé à un point où, comme, OK, on arrive là à un point naturel, entre guillemets, le point logique du scénario, puis après ça, ben, le film manquait d'idées pour se terminer, en un sens.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouvais que la progression des phénomènes paranormaux puis de l'horreur dans le film était bonne. Puis quand on arrive au climax, puis que vraiment, tu sais, sans rien révéler, tu sais, on peut dire que tout pète.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça super efficace. Comme je disais, moi, j'étais embarqué au bout dans le film. Puis quand tout va mal, j'étais vraiment troublé. Puis j'étais comme sur le bout de mon siège. J'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis je sais pas si c'est à ça que tu veux faire référence, mais après ça, il y a comme une séquence de plus dans le film qui est comme vraiment hallucinante.
Ouais.
Et vraiment, autant que pendant la majorité du film, c'est comme si c'était un tournage d'un talk show, il y a le côté faux documentaire, on reste dans un certain réalisme. À la fin, à un moment donné, on est clairement plus dans le faux documentaire, on est vraiment dans le pur cinéma. On sort complètement du réalisme, puis il se passe plein d'affaires, puis c'est assez psychologique et, comme je disais, dans les hallucinations et tout ça. Puis c'est ça. C'est sûr que si on était dans la première partie du film, puis qu'on est comme, ah, ben, il me semble que si l'émission de télé est terminée, le film devrait être terminé, je peux comprendre qu'on trouve, ah, OK, c'est de trop la fin, mais moi, j'ai vraiment aimé aussi cette espèce d'épilogue-là. T'sais, j'ai aussi trouvé ça très captivant, puis j'avais hâte de voir où qu'il y avait. Il y a quand même, tu sais, comme tu disais, il y a des révélations à la fin que on se doutait un peu que c'était ça qu'on allait apprendre, mais je pense quand même que c'est nécessaire de dire, OK, telle information, oui, ouais. En effet, blablabla, tu sais, c'est comme un peu la justification du reste, là.
Oui, oui, alors c'est sûr que ça vient justifier effectivement, tu sais, ce qu'on nous présente pendant une heure dix à peu près. Puis, encore une fois, c'est bien amené, mais je trouvais peut-être que j'aurais aimé ça, peut-être que ça reste un peu found footage tout le long, que ça reste un peu, tu sais, documentaire, entre guillemets. Bon, ça enlève rien au fait que j'ai beaucoup aimé mon expérience quand même. Puis, tu sais, on disait, bon, sur le plan technique, j'ai aimé aussi le fait que, tu sais, bon, pendant les pauses, t'as le producteur qui vient parler à l'animateur en disant « Ah oui, tu sais, bon, la séquence qu'on vient d'avoir avec Lily, c'était super intéressant, il faudrait la ramener comme invitée. » Puis, il y a comme personne qui fait le lien que tu viens d'appeler un démon, je veux dire, tu n'es pas supposé faire ça, puis ça s'est pas super bien passé. Puis là, tu dis « Ah oui, on devrait la ramener à chaque semaine, puis ta-ta-ta. » Puis, ça m'a fait penser un peu à deux choses. D'abord, le film où Russell Crowe fait un prêtre de l'Inquisition. Je sais pas si tu t'en souviens.
L'exorciste du pape ou je sais pas trop ou...
Je pense que c'est ça, effectivement. Il joue un prêtre italien, un peu bedonnant, qui se promène en Vespa. Puis, en tout cas, c'est un film très divertissant. Mais ça m'a rappelé aussi, je pense que ça s'appelle Network, un film des années 70, où c'est un animateur, justement. Ben lui, c'est pas un talk show, mais c'est un téléjournal. Et... il pogne les nerfs puis commence à crier après les gens en direct à la télévision et ça devient une espèce de cirque avec justement une prestidigitatrice puis tout ça. D'ailleurs, j'ai adoré que dans ce film-ci, le premier invité, il s'appelle Christou. Il n'y a pas de nom de famille. C'est une espèce de gars un peu, tu sais, oriental, ou je sais pas, ça se dit plus, là, mais bon, bref, moyen oriental. Et là, qui est un peu exotique, entre guillemets. Puis là, il a l'air d'une fraude, là, tu sais. Il a l'air d'un gars qui fait juste voler de l'argent au monde. Ah oui, j'entends un nom, genre Pierre ou Jean, puis il essaie de s'adapter. Puis finalement, il se passe des choses, puis en tout cas.
Ouais, ben, c'était une bonne idée. Je trouvais, justement, les autres invités, justement, d'avoir, mettons, au début, une espèce de charlatan, mais que finalement, il se trouve à être confronté à un vrai démon. puis d'avoir le sceptique aussi, qui encore là, lui, il croit pas du tout aux phénomènes paranormaux, puis lui aussi, il se trouve à être confronté à quelque chose qui se passe pour vrai. Fait que je crois que c'était, au niveau du scénario, c'était des bonnes idées pour justement montrer différentes facettes.
Est-ce que, bon, je pense qu'on peut s'entendre qu'on va recommander tous les deux Late Night with the Devil. Est-ce que tu penses que, parce que là, ça sort, ben, c'est déjà sorti un peu, mais, c'est sorti en mars, mais justement, ça sort en mars, ça sort en avril sur Shudder. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre octobre? Je sais, j'ai l'impression que c'est peut-être un mauvais timing, peut-être?
Ben, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon de le voir que c'est vraiment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qu'en octobre, ils vont vraiment se faire un festival de films d'horreur, puis jusqu'à l'Halloween, écouter plein de films d'horreur. Fait qu'il y a un côté, c'est sûr que tu t'attends peut-être, puis en plus, ce film-là se passe le soir de l'Halloween. Fait qu'il y aurait quelque chose de logique à le sortir en octobre, puis tout le monde se garocherait pour l'écouter le soir de l'Halloween. Mais en même temps, les fans de films d'horreur, c'est vraiment des gros... fanatiques, tu sais, souvent, c'est pas des gens qui vont regarder des films d'horreur seulement en octobre, ils vont en regarder à l'année longue, fait qu'il y a quand même puis tu sais, la plateforme Shudder, elle ouvre pas le 1er octobre, tu sais, elle roule à l'année, fait qu'ils ont besoin d'avoir des films qui sortent à chaque mois, fait que tu sais, c'est correct aussi quand même, puis pour nous, mettons, même si on n'est pas les plus grands fans de films d'horreur, je trouve que ça fait changement quand même de... Tu sais, souvent, en début d'année, on est dans les films indépendants, les films québécois, des trucs un petit peu comme... Puis là, soudainement, ah, ben tiens, on va faire un film d'horreur. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'on... Ça fait un petit bout qu'on en avait... Peut-être même depuis octobre qu'on n'avait pas fait de film d'horreur. Fait que moi, je trouvais ça quand même le fun, là.
Ben, imagine si dans Festin Boréal, la semaine passée, l'orignal s'était relevé. On aurait une orignal zombie qui se promène dans la forêt. Festin Boréal 2, la vengeance, ou quelque chose de même. Non, ben effectivement, tu sais, je trouvais ça intéressant comme proposition, puis tu as tout à fait raison, c'est que ça nous change. Tu sais, en ce moment, j'ai pas vu de grosses sorties au cinéma non plus. Tu sais, on nous propose beaucoup de films québécois. Faut varier nos plaisirs. Je pense qu'on essaie de faire ça quand même assez souvent au podcast. On varie pas mal les styles. Puis ça nous, on trouve ça intéressant aussi, là, effectivement. Voilà. Ben écoute, comme on disait, j'étais un peu, je t'ai pas laissé t'exprimer là-dessus, mais c'est ça, j'imagine que tu recommandes Late Night with the Devil.
Oui, je recommande fortement. Moi, c'est vraiment, l'année est encore jeune, mais à date, c'est vraiment dans mes 2-3 films préférés de l'année. J'ai adoré, tu sais, c'est vraiment du début à la fin. Bon, c'est seulement 90 minutes, fait que il y a pas beaucoup de temps mort par définition, mais quand même, tu sais, des fois, il y a des films qui sont courts, puis quand même, on est comme, ouais, OK, il y a des longueurs. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas une seconde de trop. Bon, toi, tu disais que peut-être que la fin, il y a un petit flottement à la fin, mais moi, je suis resté accroché tout le long. Puis, comme je disais, j'ai pas si souvent que ça peur au cinéma, mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça terrifiant.
Ben, écoute, moi aussi, très forte recommandation. Et je dois dire que mon imagination, par la suite, m'a relativement laissé tranquille. Alors, j'ai une assez bonne nuit de sommeil, malgré tout. Bon, évidemment, j'aurais peut-être pu en mettre les chances de mon côté puis pas écouter ce film-là en fin de soirée. C'est ma faute uniquement. Mais effectivement, si vous êtes fan de films d'horreur ou si vous avez envie de voir quelque chose de différent, parce que c'est pas un film de « Ah, oh, le tueur rôde à l'extérieur de la maison » ou c'est pas un film « Ah, oh, mon Dieu, je m'en vais quelque part » puis soudainement, mystérieusement, le signal cellulaire rentre plus. Puis là, on prend des décisions un peu nounoun, comme de se séparer dans un endroit qu'on connaît pas ou de marcher tout seul la nuit dans les bois. Donc, ça fait changement, c'est différent. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé l'attention aux détails. Moi, je suis un gars, évidemment, qui trippe tout ce qui est un peu plus vieux médian de Gilman. Ça m'a rappelé un peu, d'ailleurs, les questions de bandes retrouvées puis tout ça. Ça m'a rappelé un peu Archive 81, qui était d'abord un podcast, mais qui a ensuite été adapté par Netflix, qui était une bonne série où le type, justement, restaure des vieilles bandes, puis c'est une histoire d'horreur aussi, puis de démons, puis de sacrifices. Donc, c'est un peu dans la même lignée. Donc, voilà, Late Night with the Devil, c'est disponible. En fait, ça va être disponible dans une semaine sur Shudder. Et je sais pas si ça va être... Est-ce qu'il est encore au cinéma moderne?
Oui, il continue de le présenter une fois de temps en temps, je pense, jusqu'à la fin avril, peut-être même début mai. Okay. Puis sinon, c'est ça, le 19 avril, ça va être disponible sur Shudder.
Ben écoute, Kevin, merci d'avoir enfilé ton costume brun et d'avoir laissé pousser tes favoris avec moi cette semaine.
Oui, c'était un beau voyage dans les années 70.
Effectivement. Merci à ceux qui nous écoutent, évidemment. Toujours content de faire ça pour vous, donc ce podcast-là. Si vous voulez retrouver les autres épisodes de Rembobinage, on est sur Spotify, Apple Podcast et bien sûr sur pief.ca. Avant de vous laisser deux petits messages, comme à l'habitude, d'abord à la voûte, donc nos épisodes exclusifs sur Patreon, en abonnement ou à la pièce. On va enregistrer, toi et moi, Kevin, très bientôt, Terminator, donc le premier film de la série avec Arnold. On va faire Terminator 2 aussi, ça va être l'épisode suivant. Après ça, semble-t-il qu'ils ont arrêté ça, ils n'ont pas fait d'autres Terminator.
Il y en a eu juste deux, ouais.
Juste deux. C'est comme Indiana Jones, il y a eu trois Indiana Jones. Enfin, donc voilà, donc Terminator 1 et 2, ça s'en vient du côté de la voûte. Abonnez-vous sans plus attendre, parce qu'il y a déjà d'autres films, comme on disait, la trilogie Batman de Christopher Nolan et le film, l'excellent film Sorcerer. En terminant, bien sûr, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous donne accès à tous nos articles, toutes nos critiques, tous nos épisodes de podcast. C'est gratuit et c'est livré chaque samedi dans votre boîte de réception. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.